Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème de l'analyse des marchés, mais augmenté avec les outils d'intelligence artificielle au service de l'allocation d'actifs tels qu'ils sont développés chez AI for Alpha, je le refais, la fintech dont vous êtes membre du board, Jean-Jacques Oana, à mes côtés au plateau. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes consultant indépendant, effectivement, et vous nous apportez effectivement les enseignements de cette analyse de marché augmentée, comme je dis, à travers les outils d'intelligence artificielle. Le sujet qui vous intéresse et qui intéresse l'intelligence artificielle d'AI for Alpha, c'est le thème des matières premières. Et c'est vrai que c'est un thème qui est à nouveau sur le devant de l'actualité depuis ce début d'année ou depuis quelques semaines, Jean-Jacques.
Absolument, c'est le thème surprise de début d'année. Donc on a l'habitude maintenant de la hausse de l'or, puisque l'or est ancré dans une tendance très haussière depuis 2024. L'année dernière, c'est 27% de hausse face au dollar, 35% de hausse face à l'euro, parce que dans un environnement inhabituel où en fait l'or est monté et l'euro s'est déprécié face au dollar. Mais on avait quitté l'année 2024 sur une faiblesse structurelle ou en tout cas conjoncturelle des matières premières, avec finalement des aussi bien les métaux de base que le pétrole ou même les marchés agricoles dans une tendance baissière. Il y avait peut-être une exception sur des marchés qui sont emblématiques sur la consommation, comme le cacao, le café.
Oui, voilà. Mais, le jus d'orange.
Absolument. Oui, mais c'est anecdotique dans l'ensemble des matières premières. Oui. Et ce qu'on voit finalement depuis le début de l'année, c'est l'or, ça continue, plus 3%. Le cuivre, plus 8%. Le pétrole plus 10%, le gaz aux États-Unis plus 15%. Bon, c'est un marché très volatile. Et puis finalement, l'indice des matières premières dans son ensemble plus 5,5%. Donc on a une hausse généralisée des matières premières. Pour l'instant, c'est un rebond.
C'est ça.
C'est pas une tendance. Cependant, c'est un rebond qui est suffisamment étayé et suffisamment diversifié pour qu'on en parle, qu'il soit à souligner. Ce rebond est à mettre en perspective aussi avec finalement des hausses sectorielles, et je dirais qu'il est conforté par des hausses sectorielles sur les indices boursiers. Premier secteur aux États-Unis, le pétrole, 8% sur les stocks, donc sur les actions. Mmh. Et premier secteur en Europe, malgré la hausse du luxe aujourd'hui, les pétrolières. Donc on a finalement un mouvement qui
est cohérent,
qui est cohérent et qui semble être partagé.
Ouais.
La seule, je dirais, ce qui dénote encore, c'est la hausse du dollar et notamment la faiblesse de certaines devises liées aux matières premières, comme le dollar australien ou le dollar canadien.
Ouais.
Voilà. Mais autrement, on semble avoir quelque chose qui est nouveau. Qui est partagé au sein du complexe de matières premières et qu'il faut donc aujourd'hui analyser.
Et il y a une lecture globale à faire, c'est ce que vous dites. On peut trouver derrière chaque matière première une histoire plus ou moins spécifique, des drivers, des facteurs plus ou moins explicatifs, mais le fait d'avoir cette hausse généralisée et qui se retrouve également dans les marchés actions, des secteurs concernés, etc., vous dites, ça doit appeler une analyse un peu globale.
Oui. Alors, et c'est ce qu'on voit également sur les marchés de taux, puisque les marchés de taux, on l'a vu avec la hausse des taux longs. Alors, la baisse hier, mais finalement, à remettre en perspective...
Avec le pétrole, la corrélation pétrole et taux longs, elle est quand même très forte encore.
Elle n'était pas si forte jusqu'en décembre, et là, elle est revenue forte. Et d'autre part, il y a quand même un nouveau élément que nous apportent les marchés de taux américains, c'est que désormais, le moteur de la hausse, c'est la hausse des points morts d'inflation aux États-Unis.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est revenu à 2,5%. On a aussi une pontification de la courbe. Donc, ça veut dire un écart entre le 10 ans et le 2 ans qui, maintenant, est 40 points de base. Donc, beaucoup pontifié. C'est le plus haut niveau depuis 2022. Pendre la pontification, c'est aussi l'anticipation d'une prime de risque de terme sur la courbe des taux et de plus d'inflation. Donc, voilà. Donc, globalement, on a plus d'inflation. Et puis, même quand on revient en perspective sur, j'allais dire, la surprise microscopiquement positive d'hier
sur l'inflation
inflation qui était plus basse qu'attendue en effet, mais Bon, globalement, l'inflation, quand on regarde, elle reste ancrée à 2,5, hors effet volatile de l'énergie et de l'alimentation. Sur certaines métriques d'inflation, on est encore à 3. Sur les CPI cœur. On est bien dans de ça, finalement, de l'objectif des 2% de la Fed. Il y a un indicateur, c'était intéressant, parce que c'est le CPI cœur américain. Il était à 3,2 hier. Il est resté 41 mois au-dessus des 3%. Oui. C'était à pas arrivé depuis les années 90. Donc, en fait, il se passe vraiment quelque chose sur l'inflation. En fait, on est dans une sorte de déni. Sans mentir, certains banquiers centraux aussi, en disant oui, on est sur la bonne piste,
kilomètre.
Voilà, et en fait, on n'arrive pas.
Il en fait déjà 100 le dernier kilomètre.
Voilà, et peut-être qu'on récède, mais on récède beaucoup trop lentement par rapport à l'objectif auparavant. Et ce qu'on voit, c'est que depuis que la Fed a baissé ses taux, on a une accélération des break-even, c'est-à-dire des points morts, donc des anticipations d'inflation, qui est rapide. Ouais. Donc on voit très bien que dès qu'on relâche la contrainte sur la politique monétaire, on a tout de suite quelque chose qui réaccélère. Donc il y a des événements qui sont plus, comme vous l'avez dit, qui sont spécifiques aux matières premières, chacune des matières premières. Par exemple, le pétrole, il y a une saison hivernale qui est très froide. Il y a des stocks de gaz qui sont très bas en Europe. Il y a un approvisionnement énergétique qui pose vraiment problème en Europe. Mais aux États-Unis aussi, même si les États-Unis sont le premier producteur mondial de très loin, en fait, on voit que maintenant, il y a des sanctions contre la Russie, mais aussi contre l'Iran. Donc ça fait pas mal d'offres qui est sorti du marché.
Peut-être demain le Venezuela, on verra ce que fait l'administration Trump là
aussi. C'est bien possible. Il y a des possibilités d'intervention militaire contre le régime des Mollahs. On ne sait pas, mais c'est pas aussi à exclure. Donc il y a une série finalement de problèmes géopolitiques conjugués à des problèmes climatiques aussi liés à la saison. Qui font que finalement, il y a un manque d'offres de pétrole. Alors, il y a eu la Chine qui a constitué une aide, enfin la baisse de la demande chinoise qui a été un amortisseur à finalement la tendance haussière du pétrole. Et c'est ça qui a permis de maintenir le pétrole dans sa fourchette basse entre, si vous voulez, 70 et 90 dollars. Maintenant, on est revenu à 81 dollars, donc pile au milieu. Mais maintenant, on voit bien que la Chine essaye de relancer. Peut-être qu'à un moment, ça va un peu marcher. On le voit peut-être aujourd'hui avec la hausse des marchés du luxe. Bon, c'est à temporiser, on verra. Mais encore une fois, le pire n'est pas certain non plus pour la Chine. Et d'autre part, on voit bien qu'au-delà du pétrole, il y a un rebond qui est assez général sur les métaux précieux.
L'ensemble du compartiment.
Sur le platine, sur le palladium. On voit aussi, par exemple, les métaux industriels rebondir même au-delà du cuivre. J'allais dire que si, par exemple, en fait, il y a des transferts de consommation de matières premières. Par exemple, si ceux qui nous disent, oui, la demande de pétrole va peut-être, en tout cas, la croissance de la demande va fléchir parce qu'il y a de la consommation de véhicules électriques.
Oui.
La consommation de véhicules électriques ou la transition énergétique.
Oui, ou c'est
le cuivre.
Oui, ou le platinium ou d'autres. Oui, bien sûr.
Voilà, donc en fait, si on n'a pas la croissance sur une matière première, on a la croissance sur une autre. En réalité, c'est un transfert. Finalement, quand on remet tout cela dans ce contexte, on voit qu'il se passe quelque chose, que c'est vraiment à suivre, parce que finalement, on voit que l'inflation est peut-être provoque aussi la hausse des matières premières, mais en retour, la hausse des matières premières peut
régénérer
de l'inflation. Et il est assez ironique de voir hier le marché rebondir sur les meilleures surprises sur l'inflation aux États-Unis et dans ce contexte de voir toutes les matières premières monter fortement hier. Donc finalement, je dirais que dans un environnement macroéconomique où la dette reste très forte. On a des taux d'endettement des pays industrialisés qui sont au plus haut, où les déficits dans certains pays, je suis désolé de le dire, il y a les États-Unis, il y a la France aussi, où le déficit est hors de contrôle. Quand je dis hors de contrôle, c'est que bon, on n'arrive pas, qu'on est à 6, 7 aux États-Unis, on est à 6,5% dans un environnement de croissance.
Oui, il n'y a pas une volonté délirante de rectifier ça.
Alors, il y a certains discours, etc. Oui. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, pour l'instant, ils ne résistent pas à la réalité, à l'épreuve de la réalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, les États-Unis vont redevoir encore relancer en Californie, vous voyez, par exemple, par rapport aux conséquences des incendies. Et l'État fédéral n'aura pas le choix que de payer et de reconstruire. Et donc, il y a encore une fois un effet inflationniste potentiel, avec un manque de capacité sur la construction, peut-être un manque de matériaux, etc. Tout cela n'est pas négatif, hein, c'est positif sur l'économie, mais c'est inflationniste aussi. Et de la même manière, même si on commence à avoir en France ou en Europe des gouvernements qui ont des velléités de réduire le déficit, ben, en fait, on se heurte à des principes de réalité qui nous en empêchent, en tout cas partiellement. Donc, de ce point de vue-là, dans un environnement où le déficit est compliqué à résoudre, finalement, il y a un principe physique, j'allais dire, qui s'applique. C'est, si vous voulez, c'est le principe de moindre résistance. Vous savez qu'on emprunte toujours le chemin de moindre résistance. Et ce principe s'applique aussi à la macroéconomie. Et le chemin de moindre résistance, c'est le chemin où finalement les banquiers centraux sont un peu complaisants.
Oui, 2,5, c'est pas si grave.
Voilà. C'est le chemin où les banquiers centraux baissent les taux alors qu'ils ne devraient pas forcément le faire, ou sont plutôt accommodants. Ouais. Et donc, c'est le chemin de moindre résistance, c'est celui de l'inflation.
Ouais. Et donc, le compartiment des matières premières, dans son ensemble, est un hedge anti-inflation, c'est ce qu'il faut comprendre.
Absolument, absolument, Jacques. Absolument. Et c'est un compartiment à surveiller, c'est un compartiment aussi qu'utilisent les fonds que nous décryptons chez AI4Alpha. Par exemple, aujourd'hui, dans les fonds qui sont dits risk parity, c'est le principal moteur de performance depuis le début de l'année.
Ah, ouais.
Donc c'est à surveiller.
Ouais, effectivement, oui, toutes les approches CTA ou autres sont évidemment exposées à ces grands marchés de matières premières. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour ce focus sur la thématique des matières premières qui marque effectivement ce début d'année. Il y a les taux, il y a le dollar et les matières premières. C'est le triptyque clé de ce début d'année. Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI4Alpha avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.